Il y a 3 semaines à peu près, je crois, j'avais préparé une prédication et puis une mauvaise bronchite m'a gardé alité pendant plusieurs jours, tellement c'était sévère. Alors ma femme pleine de compassion, ma femme est toujours pleine de compassion, elle m'a dit, est-ce que tu veux que je prêche à ta place ? Je dis oui, j'avais confiance. Et elle est partie au culte, je n'ai pas posé de questions. Et puis quand elle est revenue, je dis, au fait, tu as prêché sur quoi ? Et elle me dit, j'ai prêché sur le Saint-Esprit. Je dis, non. Je dis, mais c'est ce que j'avais préparé. Je dis, sur quelle partie ? Sur quel point ? Alors elle m'a expliqué, et puis visiblement, ce qu'elle a apporté était à la fois doctrinalement dans les clous, et puis nécessaire à ce dont nous avons besoin dans notre vie personnelle. Et je me suis dit, bah, finalement, elle a frayé le chemin pour que je vous apporte ce que j'avais préparé et que j'ai repris ces jours-ci. Alors c'est dans l'écriture, j'ai peut-être demandé à quelqu'un de se mettre à l'ordinateur pour ouvrir un passage dans Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5 et verset 22. Vous allez voir que ça fait suite à ce que Francine a apporté il y a à peu près 3 semaines sur la venue, l'intervention du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'œuvre de Christ accomplie à la croix et son ascension était logiquement dans le plan de salut de Dieu, suivi de la venue, l'intervention de l'Esprit-Saint au milieu des hommes, au milieu de l'Église et dans chacune de la vie des croyants. Donc ça fait partie, la venue du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, de cette dimension du plan de salut de Dieu. Alors donc, une fois que Francine a dit cela, eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé, et il a été envoyé au milieu des hommes, le jour de la Pentecôte. Mais pourquoi, pour qui ? Certains disent que le Saint-Esprit a été envoyé une fois pour toutes, qu'il n'y a plus besoin de vivre aujourd'hui ce qui a été vécu au moment de la Pentecôte. D'autres se disent, oui, c'est quelque chose qui nous aide vaguement à avancer avec Dieu dans notre vie quotidienne. C'est quelque chose d'assez vague pour certains croyants, certains chrétiens. Et dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul leur dit ceci. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je le dis sur ce ton-là parce que c'est une manière pour Paul de dire à vous, les Juifs qui m'écoutez, vous êtes sur la loi, etc. Mais on est bien d'accord que le fruit de l'esprit, c'est pas contraire à la loi. Alors j'ai envie de dire, est-ce que le fruit de l'esprit est contraire à notre loi chrétienne, celle qui dicte notre vie ? Alors soyons attentifs à l'enseignement de l'apôtre Paul. Il encourage les chrétiens des églises de la Galatie. Ce n'est pas une assemblée, hein. C'est toute une série d'églises qui sont dans une situation un peu particulière. Une série d'églises qui sont proches du cœur de l'apôtre Paul parce qu'il en est un des fondateurs. Et il s'adresse à ces églises et à ces chrétiens de Galatie en les encourageant à rester fidèles à la foi. Fidèles. Et il les bénit, les salue, il souligne de manière très forte aussi leur inconstance. Ah ! C'est pas une lettre facile à lire. Il leur dit ceci au verset 6 du chapitre 1. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est-à-dire qu'il dit aux chrétiens de Galatie, voilà, vous étiez engagés dans quelque chose qui était profondément vrai et juste. Moi, je m'étonne que vous passiez à autre chose. je ne sais pas si vous entendiez cela de la part de votre pasteur, les yeux dans les yeux, et qui vous disent « Bah, c'est dommage, tu avançais bien, mais waouh, tu as choisi des chemins, là, aujourd'hui, qui sont quand même assez étranges, si loin de la pensée de Dieu. » Bah, c'est ce qu'il fait à l'ensemble des chrétiens de Galatie. « Ô Galates insensés, qui vous a fascinés ? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Christ crucifié ?» Ce n'est pas un manque de révélation qui est à l'origine de l'éloignement des chrétiens de Galatie, c'est l'intérêt du monde et de ses attraits. En fait, dans cette épître de Paul aux Galates, il oppose la chair à l'esprit, le monde au royaume de Dieu. Toute l'épître de Paul aux Galates est axée sur cette ambivalence entre ces deux pôles, la chair, l'esprit de Dieu, le monde, le royaume de Dieu. La fascination du monde a supplanté dans le cœur des Galates et dans leur esprit la révélation du Christ crucifié. Moi, j'aime bien cette formule. Qui vous a fasciné ? Qui vous a fasciné ? Vous auquel a été dépeint le Christ crucifié. Pouvons-nous être fascinés par l'attrait de ce monde, par la facilité de ce monde ? Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout, surtout, après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ? Pourquoi est-ce que vous retournez ? Non, l'Ancien Testament dit « Pourquoi le chien retourne-t-il à son vomi ? Pourquoi vous retournez à ces choses qui n'ont pas de valeur ?» Ainsi, cette invitation que Paul fait au chapitre 5 de vivre par l'Esprit est une réponse à cette question ou à ce choix. Vivre libre, c'est choisir entre l'attrait du monde et de ses convoitises ou laisser le Saint-Esprit nous entraîner à être transformés à l'image de Jésus-Christ. Et il s'agit bien d'accepter de vivre une œuvre de transformation ou de la refuser. C'est ce que les Galates font. Après avoir fait tout un chemin, ils retournent à des choses anciennes. Alors, j'aimerais qu'on se comprenne bien. Cette œuvre, je me méfie d'une mauvaise interprétation, ne vise pas à nous faire disparaître au profit d'une image ou d'une icône qui représenterait Jésus. Vous savez, dans les « J'aime l'Éternel 1 », il y en a un, il y a un chant que je chante jamais, moi, c'est « Brise-moi, Seigneur, fais-moi disparaître !» Non, j'ai pas envie de disparaître, j'ai pas envie d'être brisé, que tout en moi soit éliminé. Non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de nous faire disparaître au profit d'une image idéale de spiritualité. Vous savez, il y a des chrétiens, vous les regardez le dimanche, pas vous, hein, non, je vous rassure, je vous vois, non, vous n'êtes pas concernés, mais il y a des chrétiens, quand vous les voyez, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je me suis posé la question ce matin, si je mettais, vu la chaleur, une cravate ou pas, et puis l'image l'a emporté sur la raison, j'ai mis une cravate. Et parfois, on est soucieux de paraître. Et parfois, penser le changement que Dieu opère en nous, c'est imaginer que c'est un changement de façade, un ravalement, une apparence, une image, devenir un reflet ou une image de Jésus de manière superficielle. Ce n'est pas cela. Il s'agit en fait, à un moment donné, d'accepter que ce que je suis profondément en tant que créature de Dieu devienne. Advienne. Quand je vous regarde, je vois des hommes et des femmes tous différents, et des jeunes gens, et des plus âgés. Et chacun d'entre vous est une créature unique. Vous savez pourquoi je ne veux pas ressembler à Michel ? Il n'a pas de cravate, déjà. Il ne se soucie pas de l'apparence. C'est terrible. Non, je ne veux pas ressembler à Michel, même si, dans mes premières années ou mes premiers mois de collège biblique, le regarder vivre et être, ça a été un modèle pour moi, ça l'est encore. Mais quand j'étais jeune au collège biblique, lui, il avait déjà une année d'ancienneté, j'ai fait tout comme lui. Je l'ai imité, parce que je me dis, ça doit être comme ça qu'on doit étudier l'écriture, ça doit être comme ça qu'on doit vivre sa vie au collège biblique, etc. Donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai fait comme lui. Puis après, j'ai trouvé mon chemin. Mais je ne veux pas être comme lui, parce que je suis une œuvre originale. J'en vois qui sourit, c'est pas gentil, Corinne. Je suis une œuvre originale, mais vous êtes, dans la pensée de Dieu, une œuvre originale. Il ne veut pas vous faire disparaître. Il veut épurer ce que le péché empêche d'advenir dans votre vie et de devenir. Les chrétiens de Galatie ont fait un choix, celui de retourner vers les désirs du monde, plutôt que de devenir ce que Dieu veut que je sois. Je suis un amoureux de la poésie et une de mes poètes préférées est André Chédide, la maman de Louis, la grand-mère de Mathieu Chédide. Et un de ses poèmes que j'avais appris par cœur il y a quelques années, de nombreuses années, dit ceci. Dans les sèves, dans sa fièvre, écartant ses voiles, craquant ses carapaces, glissant hors de ses peaux, la femme des longues patiences se met lentement au monde. Dans ses volcans, dans ses vergers, cherchant cadence et gravitation, étreignant sa chair la plus tendre, questionnant ses fibres les plus rabotées, la femme des longues patiences se donne lentement le jour. J'aime beaucoup ce poème qui parle, pour André Chédide, du fait de devenir. Cela prend du temps de se mettre au monde. Ça prend du temps de se donner lentement le jour. Ce n'est pas le jour de notre naissance que nous nous mettons au monde. C'est toute notre vie durant si nous acceptons de devenir ce que Dieu a prévu. C'est bien là la pensée de Dieu. Non pas nous voir disparaître, mais nous faire advenir à nous-mêmes. Refuser ce travail de notre âme, c'est s'opposer à ce que la vie de Christ accomplisse en nous, l'œuvre qu'elle est destinée à générer de manière automatique. Ce mot-là apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament. De manière automatique, le fait d'être greffé en Christ nous appelle à vivre la sanctification. On a abordé cette question-là hier après-midi pour la préparation au baptême. Ce qui est juste, c'est que l'œuvre de sanctification s'accomplisse en nous et que nous portions des fruits de justice. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, suivant les traductions, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ce sont là les fruits de l'esprit. Et ce sont des choses qui sont naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fruit ? Oh, je sais que vous le savez. Le fruit, c'est un organe végétal qui succède à la fleur et protégeant ainsi la graine qui est à l'intérieur. En général, c'est un aliment plutôt sucré qui produit par un arbre. La tomate, c'est un fruit. Ce n'est pas un légume. Hein, ce n'est pas comme la pomme de terre. C'est aussi au sens figuré un résultat, un bénéfice, un but. Il récolte le fruit de son travail. Hein ? Normalement, le fruit. Un fruit, comme porteur de graines et comme aliment, vise deux finalités. C'est cela, nourrir, rafraîchir, se reproduire. Alors, j'ai envie de dire que ces deux objectifs, c'est transmettre la vie et la disséminer. Hein ? C'est un porteur de graines, le fruit. Dieu dit que la terre produise des arbres fruitiers donnant du fruit selon chaque espèce ayant en eux leur semence sur la terre. Ça C'est un livre de la Genèse au chapitre 1, 11. Donc la logique du fruit, dont l'apôtre Paul, c'est cela. C'est transmettre la vie et la disséminer. Être porteur des fruits de la vie, de l'esprit, c'est transmettre la vie et la disséminer. C'est pour cela que les fruits de l'esprit sont nécessaires dans la vie du croyant. Ce n'est pas pour faire joli. On m'a offert deux arbres fruitiers au moment de mon départ à la retraite que Corinne m'a apporté dans sa voiture. J'avais une sorte de clémentinier, plein de petites boules oranges, c'était magnifique. Et j'avais un citronnier dont j'ai mangé des fruits pendant une année. Et puis, j'ai mangé les fruits, et puis il n'y en avait plus. Et puis, je vois qu'il y a 5-6 fleurs de mandarine qui commencent à pousser. Et puis, mon citronnier, j'ai coupé le dernier citron pour faire de la citronnade vue. La chaleur, et je me lamentais en me disant « mais j'ai plus de citron !» Et j'ai vu une toute petite boule se former sur une branche, et là, aujourd'hui, elle fait à peine 1 cm. C'est le fruit de mon citronnier. Je vais le surveiller, ce fruit-là, parce que j'en ai qu'un pour l'instant. Je me dis, quand j'ai planté mon noyer, à un moment donné, ça a mis 4 à 5 ans pour que j'ai une noix. Une ! Toute ma récolte de l'année. Je l'ai pris et je l'ai posé sur un meuble dans mon salon, fier de ma première noix. Puis un jour, je suis rentré dans mon salon, il n'y avait plus de noix. Et j'ai demandé, mais où est passée ma noix ? Et puis il y a une de mes filles qui est venue me dire, je l'ai vue, je l'ai mangée. Je dis, mais tu te rends compte, t'as mangé toute ma récolte d'une année ! C'est triste un chrétien qui n'aurait qu'un fruit de l'esprit, qui disparaîtrait rapidement. Transmettre la vie, la disséminer, c'est là le rôle, l'objectif, la finalité des fruits de l'esprit. Transmettre la vie que nous avons reçue. Avez-vous reçu la vie ? La vie de l'esprit ? Est-ce que la sève de la vie de Christ coule en vous ? Alors si c'est cela, vous n'avez pas d'autre finalité que de porter des fruits, de transmettre cette vie et de la disséminer. Allez par toutes les nations et faites de ces nations des disciples. Et vous ne pouvez pas le faire, je ne peux pas le faire, sinon en portant les fruits de l'Esprit dans ma vie. Ces fruits, c'est aussi à entretenir et à fortifier. Ça sert à... Quand tu veux te nourrir, bien manger, eh bien, il s'agit de se nourrir des fruits de la terre, de la nature. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin. C'est Dieu qui parle à Adam et Ève. Tu peux manger de tous ces fruits-là. Ils sont bons. Et depuis, l'homme se nourrit de tous ces fruits qui ont été donnés par Dieu. C'est une nourriture essentielle. Eh bien, de la même manière que ces fruits entretiennent la vie de l'homme, procurent un certain plaisir. Je croquais dans une pomme il y a 2 jours, que j'avais choisie exprès. Waouh ! J'ai passé un moment fabuleux à croquer dans une pomme. Mais est-ce que cette nature qui est donnée, ces fruits de la nature, est-ce que le monde peut se dire, quand je vois les chrétiens, ce sont des fruits délicieux au milieu de ce monde. C'est la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques qui dit « Mon bien-aimé est comme un pommier au milieu des arbres des forêts ». J'aime ce verset. C'est-à-dire qu'il est unique. Et ce n'est pas n'importe quel arbre. Quand je regarde un sapin, c'est joli, mais je ne peux pas en faire grand-chose. Par contre, un pommier au milieu des arbres de la forêt, au milieu de tout ce qui n'a pas d'intérêt pour moi, il y a un pommier dont le fruit est sucré. Mon bien-aimé, il est comme ça. Jésus est comme cela pour moi. Devant tout ce que le monde propose, il y a ce fruit délicieux que Dieu a donné en la personne de Jésus-Christ. Alors, est-ce que le chrétien que je suis, la chrétienne que tu es, porte des fruits qui sont délicieux pour le monde ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Paul reprend le terme que Jean-Baptiste ou le Seigneur avait utilisé avant lui. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit. C'est pas, ça serait bien. Ah, j'ai une idée. Si jamais vous aviez le temps, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est un impératif. Produisez des fruits dignes de la repentance. Évangile de Matthieu 3, verset 8. Ce n'est pas une invitation qui est là au cas où vous auriez du temps, si ça vous fait plaisir. Mais si vous avez vécu une réelle repentance, si vous avez été greffé sur Jésus-Christ, si sa vie s'écoule en vous et a ouvert les portes de l'éternité, cette repentance, cette conversion doit t'amener à porter du fruit. Je vois des têtes qui hochent. C'était pas confortable de prêcher cela ou de préparer cette prédication. Parce qu'il y a des prédications qu'on prépare et on dit « Ouais, j'imagine bien qu'un tel doit être concerné. Oh, une telle, ça va lui parler. Ou tiens, cette famille-là, ou ce couple-là. Oh oui, ce texte-là, ça va apporter quelque chose. » Mais là, du coup, quand j'ai préparé ça, je dis « ça me concerne. » Je ne peux pas dire « c'est les autres ». Ça me concerne. Ça nous concerne. Alors, Paul parle non pas des fruits. Hein, quand il parle dans ce passage de Galates, il ne dit pas « voici les fruits de l'esprit ». Il dit « le fruit ». En fait, en grec, ça se dit « karpos pneuma ». Le fruit de l'esprit. Il s'agit d'un fruit, pas de plusieurs fruits. Il ressemble davantage à une grappe, comme une framboise ou une grappe de raisin, qui est un fruit composé de plusieurs parties, graines. Vous voyez une framboise, vous avez plein de petits fruits qui s'agglutinent. Le fruit de l'esprit. Il est semblable à une grappe qui est là, formée et qui est attachée, comme la grappe au cep, qui tire sa vie de lui. Le fruit de l'esprit, alors, est-ce que c'est pareil que les dons de l'esprit, à votre avis? On parle des dons de l'esprit, des fruits de l'esprit. Est-ce que c'est pareil? Les dons de l'esprit sont accordés, en fait, à différents chrétiens. Certains en ont quelques-uns, certains dons, et puis d'autres ont d'autres dons. Donc, les fruits de l'esprit, c'est pas pareil que les dons de l'esprit. On est bien d'accord? Oui, c'est clair pour tout le monde. Hein, le don de prophétie, le don de guérison... Moi, quand j'étais jeune et que j'étais au collège biblique, on avait des professeurs dans une formation charismatique qui disaient « Aspirez aux dons les meilleurs », c'est ce que dit l'apôtre Paul. Alors moi, j'ai lu, j'étais au collège biblique, j'avais que ça à faire, étudier l'écriture, la lire, la vivre, l'appliquer, etc. Alors j'ai lu les dons de l'esprit, les dons charismatiques. Puis j'ai fait mon marché. Je dis « Celui-là, je veux bien. » Ouais. Don de parler en langue, oui, ça me dérange pas. Ouais, je le prends, celui-là. Après, j'ai regardé le don des paroles de sagesse. Ça, j'aime bien ce don, paroles de sagesse. Ça doit être génial d'avoir des paroles de sagesse qui, dans un entretien, une rencontre, un échange, tout à coup, il y a une parole qui n'est pas une parole créée par l'intelligence, mais une parole qui vient... et qui débloque quelque chose, qui apporte une lumière surnaturelle pour aider l'autre. Ah oui, je dis, je coche, celui-là je veux bien. Parole de connaissance, ah, à un moment donné, avoir une parole, c'est différent de la parole de sagesse, mais quelque chose qui me dit vraiment une connaissance dans une situation pour quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, et que je ne connaissais pas, c'est facile hein, de... Je disais ça parce que je suis en train de travailler sur un mouvement qui est un petit peu qui bascule dans le mouvement sectaire. Et il y a un prophète qui prophétise vis-à-vis d'un pasteur, mais il vit quasiment chez lui tous les jours. C'est facile. Mais une parole de connaissance qui vient, que je ne connais pas, pour une personne peut-être même que je ne connais pas, et qui tout à coup va révéler quelque chose et qui aide l'autre. Ouais, je coche, je prends. Puis à un coup, je vois don de guérison. Don de guérison, est-ce que j'ai la foi pour la guérison en termes de don? Et là, j'ai mis peut-être. Puis quand je suis devenu stagiaire, notamment pasteur, vous savez, dans les grandes réunions, on vous appelle à vous lever pour prier pour un tel, pour les malades, pour ceux qui veulent... Et puis, à chaque fois, dans les grandes conventions, on disait, après, quand je suis devenu pasteur, que les pasteurs s'avancent pour prier pour les malades. Et moi, j'étais là, je dis, mais Seigneur, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir le don de guérison, je n'ai pas demandé forcément, etc. Donc, je me suis levé quand même par obéissance et j'ai prié pour les malades. Et une année, j'ai prié pour une femme, et l'année d'après, elle était pliée en deux. Vous savez, la femme courbée en deux dans les évangiles, elle était comme ça depuis de nombreux mois. Rien ne pouvait la soulager, rien ne pouvait la redresser. Elle me dit, vous pouvez prier pour moi. Et puis moi, dans ma tête, j'étais, j'ai pas le don de guérison. Mais je vais prier par obéissance. Un an après, il y a une femme qui vient me voir, toute heureuse. On était en train d'attendre le repas dans le service pour le repas de la convention. Et puis elle vient vers moi, elle me serre dans ses bras. Bon, je dis, bon, je sais pas qui c'est. Elle dit, vous avez prié pour moi l'année dernière. J'ai été guéri dans la semaine qui a suivi. Je dis, bon, bah, Seigneur, si tu veux, je peux cocher ça. C'est les dons de l'esprit. Quels sont les dons? Aspirez aux dons les meilleurs. Est-ce que vous avez aspiré aux dons les meilleurs? Pour vous? Dont l'Église a besoin? Dont le monde a besoin? Qu'est-ce que tu as demandé comme don? Ou qu'est-ce que tu as demandé à Dieu de te confirmer des dons qu'il veut te déposer, te donner? Tu as demandé? Je regarde des personnes bien définies. Il y en a qui font du « c'est pas moi qui regarde, c'est pas moi qui regarde ». Aspirez aux dons les meilleurs. Vous avez à aspirer. Après, c'est le Seigneur qui donne. Mais les fruits de l'esprit, les fruits d'esprit, c'est différent. Ce ne sont pas des fruits qui sont donnés à différents. Certains vont avoir l'amour, certains vont avoir la joie, d'autres vont avoir la paix. Moi, je suis tranquille, la patience, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Je peux continuer à être comme je suis. J'ai préparé ma prédication. Ce matin, j'avais reçu un message de Nicole qui disait « Peux-tu amener, pouvez-vous apporter le grand vase qui est chez vous pour que j'y mette des glaïeuls ?» Donc je monte à l'étage, Francine était... Voilà, avait d'autres choses à faire. Donc je lui dis, je prends le vase, le grand vase pour Nicole. Alors elle me dit, ben oui, d'accord. Puis après, elle me dit, mais tu prends le grand vase? Ben, je dis, ben oui, je viens de te le dire. Je dis, mais alors tu l'emportes à l'église? Ben oui, je le prends pour l'emmener à l'église. Et ces questions ont généré en moi de l'énervement. Je dis, mais je viens de lui dire, pourquoi elle me repose la question pour me dire? Et j'ai descendu l'escalier, et là, est venu en moi ce verset que je travaille depuis plusieurs semaines. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Bon, celui-là, je crois que j'ai encore besoin de le travailler et de le laisser grandir en moi. Parce que c'est pas optionnel. C'est pas comme quand vous allez acheter votre voiture. Vous dites, le rétroviseur extérieur de droite, je ne l'utilise pas, vous me l'enlevez. Non, non. Les fruits de l'esprit, c'est ce que l'esprit dépose et fait grandir en nous dans son ensemble. Il n'y a pas d'option sur lesquelles vous pouvez dire « je ne suis pas concerné » ou « je suis déjà parfait ». Je peux le penser, mais ce n'est pas vrai. La patience, pour moi, par exemple, c'est quelque chose, je n'ai que 65 ans. Donc j'ai encore du temps, mais voilà, il faut que je travaille encore. Tout ça à cause de Nicole et de son vase. voilà. Le fruit, nous sommes invités à produire l'ensemble du fruit de l'esprit dans notre vie. Alors, ça interroge. Il faut bien comprendre que ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. Alors, je peux avoir des qualités. Il y en a certains qui ont naturellement certaines qualités qui sont représentées par l'esprit de Dieu. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et que, en cela, nous sommes porteurs naturellement de certaines qualités qu'on retrouve dans l'esprit de Dieu. Certains sont plus patients que d'autres. Dans notre couple, on sait qui a la patience. Dans l'Église aussi, qui a la joie, la paix. Je me faisais la réflexion. Alors, je m'attendais à me tourner par là, puis en fait, je vais me tourner par là. Je dis, vous avez croisé dans votre vie des gens qui ont porté de manière étonnante des fruits de l'esprit. Réfléchissez. Si on refait la liste, vous la répétez souvent, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi. Réfléchissez. Dites-vous, tiens, et j'allais poser la question à quelqu'un, est-ce que quelqu'un a déjà croisé une personne et en la regardant, en disant, mais cette femme, cet homme, ou cette femme en l'occurrence, elle porte la joie, une joie en permanente, un sourire merveilleux, elle exprime une joie constante. Et je pensais à Hervé, mais je vais m'adresser à son frère, à Jean-No. Est-ce que dans ta vie, si tu cherches quelqu'un qui a porté le fruit de l'esprit, quelqu'un qui, en permanence, brillait de joie, souriait constamment. Et je me disais, mais tiens, moi, ça me fait penser à quelqu'un. Non ? Ben moi, il y en a une qui, quand je pense à la joie, c'est Jeanne. Jeanne. Elle a traversé des moments difficiles, elle a eu une vie de couple qui a été compliquée jusqu'à ce que son mari se convertisse, tombe malade, décède. Mais cette femme-là, je l'ai toujours trouvée rayonnante de joie. C'est pas d'accord avec moi ? Hein ? C'est vrai ? Quand je pensais au fruit de l'esprit, Jeanne, ça a été pour moi quelqu'un qui avait ce fruit, mais pas seulement naturellement. C'est l'Esprit de Dieu qui l'avait rendu comme ça. Hein ? Dans un ouvrage que j'utilise pour la préparation au mariage, Gérard Warreau utilise comme support le chapitre 13 de Corinthiens. Est-ce que tu peux mettre affiché 1 Corinthiens 13, verset 1 ? C'est un chapitre qui parle de l'amour. Et lui, il le met en lien avec l'amour conjugal, mais l'amour, il est bien dans la liste du fruit de l'esprit, non ? Oui, vous avez vérifié ? Vous êtes sûr ? Ouais. C'est même le premier, l'amour. Aimer. Alors, le verset suivant. Voilà. On va avoir du mal, là. Voilà. Encore après. Description de 1 Corinthiens 13 sur l'amour. On va y arriver. Voilà. Encore après. Faut suivre, hein. Voilà. Alors, la charité, c'est le mot qui est utilisé pour parler de l'amour. Alors, remplacez, en le disant ce passage, le mot amour par Jésus. Pour voir comment Jésus est la manifestation parfaite de ce fruit de l'esprit, l'amour. Alors, on va le lire à haute voix. D'accord ? Vous faites avec moi cet exercice ? D'accord ? À haute voix. Hein. Alors, je vous rappelle que j'ai un problème auditif, que j'entends mal. Donc, il faut le lire avec force et avec affirmation et foi. Jésus-Christ est patient. Il est plein de bonté. Jésus-Christ n'est pas envieux. Jésus-Christ ne se vante pas. Jésus-Christ ne s'enfle pas d'orgueil. Jésus-Christ ne fait rien de malhonnête. Jésus-Christ ne cherche pas son intérêt. Jésus-Christ ne s'irrite pas. Jésus-Christ ne soupçonne pas le mal. La suite. Ah, ça va arriver. Ah, ça a été revenu en arrière, là. Ah, on va y arriver. Ah. Alors, la suite. Jésus-Christ ne se réjouit point de l'injustice. Jésus-Christ se réjouit de la vérité. Jésus-Christ excuse tout. Jésus-Christ croit tout. Jésus-Christ espère tout. Jésus-Christ supporte tout. La suite. pensais que ça serait plus facile. Apparemment. Oui, on revient au début. Alors, la suite, c'est Jésus-Christ ne périt jamais. On va revenir au début de cette liste-là. Donc, 1 Corinthiens 13, verset 4. D'accord ? On a dit que ce chapitre, ce passage de l'amour, Jésus-Christ en est l'incarnation. Si j'osais, en même temps, vous me connaissez, quand je dis si j'osais, je vais le faire. Si j'osais, je remplacerais charité par mon prénom. Puisqu'on l'a remplacé par Jésus. Si l'esprit de Jésus est en moi, alors ce qui est dans cette liste parlant d'amour, c'est aussi quelque chose que je dois incarner. On est d'accord ? Alors à haute voix, chacun en disant votre prénom, essayez de réfléchir à ce que ça veut dire de mettre votre prénom à la place de l'amour, à la place de Jésus. Jean-Marc est patient. Aïe, ça commence mal. Jean-Marc est plein de bonté. Il n'y a que mon prénom ? J'ai dit votre prénom. Hein. On recommence. Jean-Marc est patient. Jean-Marc est plein de bonté. Jean-Marc n'est pas envieux. Jean-Marc ne se vante pas. Jean-Marc ne s'enfle pas d'orgueil. Jean-Marc ne fait rien de malhonnête. Jean-Marc ne recherche pas son intérêt. Jean-Marc ne s'irrite pas. Jean-Marc ne soupçonne pas le mal. Jean-Marc ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Jean-Marc excuse tout. Jean-Marc croit tout. Jean-Marc espère tout. Jean-Marc supporte tout. Et le verset suivant. Jean-Marc ne périra jamais. C'est un exercice particulier. Moi, je vous invite à le faire lorsque vous serez chez vous. Parce que vous avez vu, le premier, Jean-Marc est patient. Bon, mon témoignage, c'est que c'est partiellement vrai. Mais le fruit de l'esprit vise à ce que ce premier item du fruit de l'esprit, l'amour, qui est vrai pour Christ, devienne vrai pour moi. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que, quelque part, quand je prononce en mettant mon prénom et en disant ces choses-là, tout à coup, ça coince aux entournures ? Je sens que mes mots ne correspondent pas à ma réalité. Et là, le Saint-Esprit me dit, te dit, ouais, là, tu as du chemin à faire. Et ça, c'est l'œuvre de la Jenna, sanctification. Je te taquine. Est-ce que cela, c'est le fruit de l'Esprit que j'ai à travailler ? Le fruit de l'Esprit, avec ce premier élément, l'amour, si nous sommes honnêtes, nous voyons l'œuvre qu'il reste à accomplir pour porter véritablement le fruit de l'Esprit dans notre vie. Car c'est véritablement la pensée, la volonté de Jésus que ce fruit se développe dans notre existence. Au regard de ces fruits apportés et de ce que je laisse l'Esprit accomplir, je serai semblable à cette parabole, à l'homme qui a reçu un talent, l'autre 5, l'autre 10. Si j'ai reçu l'Esprit de Dieu et que je ne laisse pas le fruit de l'Esprit grandir en moi, je ne vaux pas mieux que cet homme qui a pris son talent, est allé l'enterrer dans le fond de son jardin et l'a laissé là. Il a dû rendre des comptes à son maître. J'aurai des comptes à rendre à mon maître et à mon Seigneur, des fruits ou du fruit de l'esprit que je n'ai pas laissé grandir et de cette diversité de caractéristiques du fruit de l'esprit. Que la haine qui habite mon cœur puisse céder la place à l'amour. Que l'ombre de la tristesse qui règne sur mon âme laisse la joie éclairer ma vie. Que l'inimitié qui sépare disparaisse pour qu'une alliance de paix avec moi-même, avec l'autre, soit établie. Que mes attentes impatientes, stériles et vaines s'évaporent pour pouvoir goûter la douceur de l'instant présent avec Christ. Que la colère qui brûle comme un feu au plus profond de moi s'éteigne pour que coule la bonté. Que l'indifférence de l'autre soit remplacée par la bienveillance de l'âme et du cœur. Que mes engagements fragilisés par mes inconstances reposent désormais sur le fondement de ma fidélité. Que la violence qui s'imposait dans mes relations à l'autre soit désormais remplacée par la douceur. Que mon incapacité à me contrôler soit transformée par une maîtrise de mon cœur et de mes émotions. Voilà l'œuvre que l'Esprit Saint veut accomplir en moi. Alors, il s'agit de développer le fruit de l'Esprit. Comment le développer concrètement ? Eh bien, en faisant en sorte que cela soit vécu sur la base de la grâce. En fait, Paul insiste sur la différence entre la chair et le fruit de l'Esprit dans notre vie. Il demande à ce que l'Esprit soit répandu et qu'il accepte de prendre cette place, que nous acceptions de laisser cette place-là au Saint-Esprit. La grâce, charis en grec, vient du sanskrit. Vous le saviez, ça ? Moi, je l'ai découvert il y a quelques années. En fait, grâce, charis, ça vient de char en sanskrit, et qui, au sens propre, veut dire en sanskrit briller de joie et de bonté. Et c'est là que j'ai pensé à Jeanne. Briller. Moi, je ne sais pas si je brille de joie et de bonté. Mais quand cette femme qui a accompagné l'Église pendant tellement d'années était avec nous, elle brillait de joie et de bonté. Je ne pense pas que Jean-Noël, Hervé, Maryse aient pu faire le même chemin si cette lumière qui était sur elle n'avait pas brillé pour les toucher. Nous pensons à l'Ancien Testament, à Dieu qui fait briller sa face. C'est le psaume 80, verset 3, qui dit « Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Ah ! En fait, la grâce, l'esprit, la grâce, c'est quelque chose qui est une réalité active. La grâce, c'est la terre dans laquelle le fruit de l'esprit peut pousser. Je ne peux pas essayer de porter le fruit de l'esprit par ma propre nature. C'est la grâce de Dieu qui peut m'aider, que j'accepte. L'apôtre Paul aux Éphésiens dira un autre « Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » La justice et la vérité, c'est aussi des fruits. Waouh ! On en rajoute encore ! Ça va être dur ! Laissez la grâce de Dieu permettre aux fruits de grandir et de pousser. Alors, je terminerai juste en disant, mais comment on classe les fruits de l'esprit ? Il y a eu beaucoup de tentatives pour classer ces 9 fruits de l'esprit. Et en fait, quelqu'un disait, le plus simple, c'est d'éviter de les hiérarchiser. Alors déjà que le premier, c'est l'amour, on se dit, déjà celui-là, si je porte cette caractéristique du fruit de l'esprit, juste celui-là, ce sera déjà pas mal. Mais il y a les autres derrière. En fait, quelqu'un disait, on pourrait penser que les 9 fruits de l'esprit sont en lien avec 3 groupes qui décrivent nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Et le premier groupe, c'est nos relations avec Dieu. En fait, l'amour, la joie et la paix découlent de notre relation avec Dieu. Être envahi par l'Esprit Saint ne peut pas signifier autre que d'être confronté à l'amour du Père. L'amour de Dieu dans nos cœurs, qui nous remplit de joie et nous apaise et nous donne la paix. Alors on va dire que le premier groupe de fruits de l'esprit, ce sont ceux qui caractérisent ou qui découlent ou qui sont en lien avec notre relation avec Dieu. Si on ne cultive pas notre relation avec Dieu, soyons clairs, ces caractéristiques de fruits de l'esprit, essayez d'aimer sans que ce soit l'Esprit de Dieu en nous, l'amour de Dieu qui nous aide à aimer, c'est un échec assuré. La deuxième série, c'est la patience, la bienveillance et la bonté. En fait, ce sont des fruits de l'Esprit qui sont en relation avec les autres. La patience. Moi, je n'ai pas besoin de patience quand je suis tout seul. Je suis très patient avec moi-même. J'ai une bienveillance avec moi-même. J'ai une bonté vis-à-vis de moi-même tout à fait naturelle. Ouais, mais avec les autres. Les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est de m'aider à développer par le Saint-Esprit ma relation avec les autres sur la base de la patience, la bienveillance, la bonté. La bonté, il y a un livre qui en parle particulièrement, c'est le livre de Ruth, Chesed en hébreu. Il est considéré par tous les exégètes comme le livre de la bonté. Mais pas une bonté superficielle, une bonté active, parce que l'Esprit de Dieu me met en route et fait que je prends soin de ma famille, de mon mari, de ma belle-mère, etc. Que je vais retourner glaner dans les champs pour nourrir ma belle-mère, parce que nous avons tout perdu, etc. La bonté, dans le livre de Ruth, dans l'attitude de Ruth, mais aussi celle de Naomi, celle de Boaz, est caractéristique de ce livre. Est-ce que c'est aussi un fruit de l'esprit que je cultive pour l'autre? D'ailleurs, je me disais, un exercice qu'on pourrait faire, c'est regarde ton voisin, ta voisine, quelqu'un d'autre dans l'église. Est-ce que tu pourrais dire quel est le fruit de l'esprit qui caractérise peut-être plus fortement cette personne? Regarde ton frère. Je regarde deux frères qui sont assis là. Quel est le fruit de l'esprit qu'il y a chez lui et qui te semble évident? Ouais. Ben, notre relation avec les autres, c'est notamment la patience, la bienveillance, la bonté. Est-ce que c'est une caractéristique du fruit de l'esprit pour l'autre? Puis la troisième catégorie serait notre relation à nous-mêmes, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Fidélité, mais fidélité dans le sens de cette fidélité qui encourage les autres à se fier en nous. C'est quelqu'un de fidèle, de fiable en quelque sorte. Est-ce que je cultive cette caractéristique du fruit de l'esprit? Je suis quelqu'un de fiable pour les autres. Ou bien, vous savez, vous connaissez le film peut-être La chèvre avec Pierre Richard, qui lui arrive toujours des problèmes. Et à un moment donné, au début du film, ils font rentrer dans une salle où il y a 30 chaises. Et puis, pour montrer qu'il est toujours malchanceux, ils lui disent « asseyez-vous ». Et lui fait une fois le tour de la salle, et puis il y a 30 chaises, et il s'assoit sur une chaise, et poum, c'est la chaise où il y avait un pied qui était cassé. Est-ce qu'en tant que chrétien, je suis quelqu'un qui n'est pas fiable, pas fidèle? Est-ce que je suis quelqu'un dans ma relation avec moi-même qui remplit de douceur et de maîtrise de soi? Voilà quelques pensées, je vais m'arrêter là, mais j'ai été béni par ce travail sur les fruits de l'esprit. Et puis, l'histoire du vase m'a montré que je n'étais pas arrivé au bout. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Seigneur, je suis greffé sur Jésus-Christ. Il a répondu sur ma vie l'Esprit-Saint. Je suis aujourd'hui appelé à porter du fruit. Que cette parole que j'ai lue, travaillée ces dernières semaines m'encourage, nous encourage à ne pas rester dans un statu quo, mais à laisser l'œuvre de l'Esprit s'accomplir, afin qu'en moi grandisse le fruit de l'Esprit dans toutes ses composantes. Garde-moi d'être celui qui enterre son trésor au fond du jardin. Donne-moi de faire grandir en moi, dans ma vie, ce fruit de l'Esprit. J'en suis responsable, Seigneur. Je le crois, je le sais aujourd'hui. Amen.